Ceci est la deuxième partie de ma conversation avec Arthur Keller. Évidemment, si vous avez raté la première, commencez par là.
On pourrait passer une heure de plus en fait là-dessus. Je voudrais qu'on passe à la deuxième partie qui est après le constat. Et effectivement, après, tu développes ça dans des conférences. Donc, tu fais le constat que ça risque d'être très, très compliqué de changer le système pour tout un tas de raisons. Et il y a tout un tas de verrous. Et je suis plutôt d'accord avec toi. C'est tout ce que j'ai développé dans mon propre bouquin entre les verrous médiatiques, les verrous psychologiques, les verrous institutionnels, les théories des jeux. Il y a tout un tas de choses qui nous disent qu'on est plutôt embarqué dans un grand mouvement vers toujours plus de croissance, et que ceux qui sont, notamment ceux qui seraient en mesure de vraiment faire bouger les choses, n'ont pas vraiment, ne voient pas leur intérêt à le faire. Ils ont toujours un plan B au cas où ils se planteraient, et puis ils voient les choses venir, et donc ils ont leur assurance, mais pour l'instant, tant que ça tient, on continue. Et on voit qu'on est plutôt dans un mouvement qui continue de s'accélérer, d'ailleurs avec de manière paradoxale, avec des espèces de feux d'artifice de tout plus en plus absurdes, avec des jeux divers 100% nage artificiel, avec des projets pharaoniques totalement dingues un peu partout, notamment en Arabie Saoudite, etc. Donc on non seulement on n'arrête pas, mais en plus on continue d'accélérer. Malgré donc une forme de prise de conscience, et je te rejoins tout à fait en disant probablement que le diagnostic n'a toujours pas été posé, mais quand même il aurait été posé, on n'a pas trop envie en fait d'aller dans ce sens-là pour tout un tas de raisons. D'ailleurs, on peut peut-être parler un petit peu de ça avant d'aller sur l'idée de résilience. Je sais pas si tu l'observes, moi j'observe dans mes conférences une forme de fatigue par rapport à ces sujets-là. C'est-à-dire que d'un côté on se dit bon, y a la vie est suffisamment contraignante, les nouvelles suffisamment sombres, on n'a pas trop envie de s'embêter avec cette projection un peu dark, un peu sombre. Et puis j'entends aussi qu'il y a une vraie résistance envers les sujets écologiques qui est associée à la privation de liberté. Et quelque part, c'est à juste titre, puisque en vrai, une politique écologique, ce serait une politique de la restreinte, et donc quelque part de contrôle. Vous n'aurez le droit qu'à quelques vols de courrier dans votre vie, vous n'aurez pas le droit d'acheter telle ou telle voiture parce qu'elle est trop lourde, etc. Si vous avez une entreprise dont on estime qu'elle ne sert plus à grand-chose, on vous la prend, on oblige à la fermer. Ça, c'était un peu une discussion avec Timothée Parik que j'avais eue, à quoi ça ressemble une économie de décroissance. Ça rappelle presque un peu l'enfant unique qu'il y avait eu en Chine, qui était finalement une politique de sobriété de long terme. Mais si parfois, même si parfois c'est pas dit comme ça, il y a bien un lien entre une proposition de transition systémique et cette idée de contrainte, de privation de liberté, etc. Et on voit à quel point ça vient heurter un récit qui est porté par tout le système, qui est non, il faut continuer de croître, la liberté, votre liberté à consommer, y compris à consommer, est fondamentale, etc. Je parle de ça parce que c'est quelque chose que j'ai entendu dans un podcast récemment de vraiment quelqu'un qui était en guerre contre toute cette tendance à la surveillance de masse, la contrainte, le fait qu'on aille nous interdire les voitures, etc., etc. Et qu'il y a des personnes en face qui sont prêtes à mourir pour cette liberté. Ça ne passera pas par moi. Donc, qu'est-ce que tu penses de ce combat, cette opposition entre les valeurs qui se met en place et qui, pour moi, est un des principaux verrous?
C'est très délétère et c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'il faut se préparer au fait où ça marchera pas. Voilà. Et où on n'arrivera pas à faire le changement. Parce que ça fait partie des résistances au changement. Il y a plein de choses à dire, dans tout ce que tu as dit. Tu m'as demandé notamment est-ce que je ressens une forme de fatigue lorsque je me déplace, lorsque je donne des confs ou des formations à des élus ou des ateliers, que j'organise des ateliers au niveau territorial. Enfin, je fais différents types de choses. Moi, non. Mais pour autant, je sais qu'elle existe, cette fatigue, dans une grande partie de la population. Je l'observe pas, je peux l'observer des fois a priori, parce que tous les gens qui viennent me voir sont pas des gens qui sont déjà convaincus. Y a plein de gens qui sont pas du tout dans cette histoire-là et qui peut-être, effectivement, a priori, ça les saoule un petit peu. Et le début de mes interventions, où je repasse un petit peu sur des enjeux comme ça, effectivement, je sens que... voilà. Mais bon, après, ma manière de faire est telle que... Ils ont jamais vu ça, pas sous cette forme-là, pas comme ça. Et donc, finalement, c'est assez frais. Et à la fin, c'est rare que les gens se soient ennuyés. Il y a presque un côté un peu théâtral, un côté un peu seul en scène, dans ce que je fais. C'est pas des confs classiques. Donc, c'est par la forme également et par le jeu sur les émotions que j'arrive à dépasser cette fatigue largement et à embarquer les gens. Et ça, c'est volontaire. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ce côté un peu théâtralisé. Oui, mais si je le fais, c'est pas parce que je suis comme ça. Si je le fais, c'est parce que ça fonctionne, okay. quoi. Alors bon, okay. donc la fatigue, on peut dépasser. Maintenant, il y a, tu parles de ça et tu parles de quelqu'un qui est venu et qui a fait, apparemment, de ce que je comprends, qui a fait un peu un parallèle entre surveillance de masse et contrainte. Alors pour moi, ce sont deux sujets totalement différents qui peuvent, dans certains cas, effectivement, être convergents, mais qui peuvent être totalement divergents. Par exemple, en ce qui me concerne, je suis pour certaines contraintes, je suis totalement contre la surveillance de masse. Voilà, la surveillance de masse, c'est une dérive vers l'autoritarisme. L'absence de contraintes aussi. Pourquoi ? Déjà, contraintes, vouloir pas de contraintes, parler de liberté, ça n'a aucun sens si on comprend pas le fondamental de ce que c'est une société de vivre ensemble, et donc évidemment le fondamental aussi du civisme qui va avec, qui est que la liberté des uns, ça s'arrête là où commence celle des autres. C'est vraiment la base de la base. Et ça veut dire qu'il y a pas simplement des libertés individuelles, une somme de libertés individuelles, sans contraintes, mais bien des contraintes, des limites, des droits et des devoirs. Il y a tout ça. Et c'est l'équilibre de tout cela. Alors, si possible, un équilibre négocié collectivement, pourquoi pas démocratiquement, mais globalement, effectivement, un équilibre. Tu peux pas faire tout ce que tu veux. Et l'autre en face, non plus. Et c'est précisément cet équilibre qui fait que l'un et l'autre, vous respectez, ou en tout cas, vous respectez l'espace de l'autre. Bon, une société libre, c'est pas une société où chacun fait ce qu'il veut. D'ailleurs, les gens qui refusent qu'on leur dise on ne m'interdira pas de faire ceci ou cela, ou qui prétendent lutter plus généralement pour l'idée de liberté, je suis contre une société qui interdirait aux gens de faire ceci, cela, je suis pour la liberté. Bon, alors, la liberté de faire ce que l'on veut, ça n'existe pas. On ne fait ce qu'on veut que dans la limite de ce qu'on peut, et la plupart des gens peuvent beaucoup moins que certains qui peuvent tout. Donc, le fait déjà de dire il faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent, c'est un leurre, ils font surtout ce qu'ils veulent et ce qu'ils peuvent, et donc c'est fondamentalement inégalitaire et inique comme vision des choses. Juste ce principe-là. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une société qui est humaine. Cette société humaine, elle s'est organisée selon des règles humaines. Il y a des règles tacites, les lois qui fixent donc les droits, les limites, etc. Mais il y a aussi des règles tacites, implicites, qui sont les codes sociaux, les codes culturels, etc. Et tout ça, aujourd'hui, c'est très déconnecté de la nature. Pas tous, mais quand même beaucoup. On est de plus en plus dans des environnements urbains déconnectés de la nature. Et il se trouve que la nature a pas disparu pour autant. La nature, elle est là. Et comme je le disais tout à l'heure, on est une machine qui convertit la nature en déchets. Même si beaucoup de gens ne le voient pas, en amont de leur mode de vie, il y a des prélèvements de ressources. Il y a des prélèvements de ressources énergétiques notamment. Ensuite, il y a tout un tas de processus. Et en aval, il y a des déchets et les pollutions. Le changement climatique, c'est quelque part, c'est un problème de pollution. C'est de la pollution atmosphérique de certains types de gaz, etc. Bon, tout ça, on le voit pas vraiment ou pas directement. Mais effectivement, on est lié aux ressources de cette nature, aux équilibres naturels et écologiques de cette nature, aux cycles biogéochimiques de cette nature, aux cycles de l'eau, aux cycles du carbone, aux cycles de ceci et de cela, et à l'équilibre de toutes ces choses-là. Il se trouve que nous avons atteint, mais ça c'est impossible de le ressentir avec nos sens individuellement, il faut connaître la science, il faut connaître les ordres de grandeur, il faut connaître les travaux sur des modélisations au niveau même des fois planétaire, pas toujours mais des fois, on sait aujourd'hui que nous avons dépassé un certain nombre de limites planétaires. Et cela va rendre impossible le maintien d'une société de croissance perpétuelle où on aurait des flux d'énergie et de matière qui continueraient d'augmenter. Ben ça, c'est bientôt fini. Or, même si toutes les activités économiques ne sont pas égales en termes d'implication au niveau des flux d'énergie et de matière, il y en a certaines qui sont moins lourdes que d'autres, malgré tout, comme je disais, au niveau sociétal, il y a des industries qui doivent fonctionner, il y a de la bouffe qui doit être produite, il y a tout un tas de choses, de l'énergie, et globalement, il y a une corrélation extrêmement forte entre notre capacité à faire grossir la taille de l'économie, le PIB, la croissance, fût-elle verte, et de l'autre côté, notre possibilité de découpler et d'avoir donc des flux d'énergie et de matière qui descendraient. On ne sait pas le faire. Certains disent, oui, mais regardez, si il y a certains pays qui ont réussi à avoir un taux de croissance économique positif et, par contre, en même temps, pourtant, ils ont baissé leurs émissions de gaz à effet de serre, c'est donc que le découplage, on sait le faire. Et là-dessus, il faut répondre plusieurs choses. Il faut répondre que cette obsession sur les gaz à effet de serre n'a pas de sens, c'est un des symptômes une fois de plus. Et si l'on regarde dans l'ensemble, non, il n'y a pas de découplage. Pour qu'il y ait un découplage, il faudrait que l'énergie puisse croître tout en baissant les flux de matière. C'est faux, c'est de pire en pire. Tout en diminuant la destruction des écosystèmes, c'est faux, c'est de pire en pire. Tout en diminuant les pollutions injectées, c'est faux, c'est de pire en pire, etc., etc. Donc le découplage n'est pas possible. il n'existe pas, il n'existera pas, puisqu'on s'en éloigne, on est dans une situation de surcouplage. Partant de tout cela, nous allons donc avoir des contraintes imposées par le système, des contraintes énergétiques, des contraintes matérielles, des contraintes écologiques, des contraintes derrière qui seront également logistiques, de flux d'approvisionnement, etc. Ces contraintes-là, soit on les comprend et on les anticipe et on s'adapte pour que ce soit pas le chaos, soit ce sera. De toute façon, on va les subir, effectivement, dans la panique. Et donc, si on ne retranscrit pas ces limites, qui sont des limites, j'ai envie de dire, objectives, aujourd'hui, dans une société comme la France, on les ressent pas encore au quotidien, la grande majorité des gens en tout cas, mais sauf, on a eu quand même un peu peur là, pendant la guerre, hein, on a vu qu'il y avait des limites qui étaient possibles, qu'on était quand même très tributaire de certaines chaînes d'approvisionnement, patati patata, on commence à comprendre certaines choses, mais on n'a pas encore compris que tout notre système est comme ça, et que globalement, un pays comme la France, qui n'est pas producteur d'hydrocarbures, ou extrêmement peu, eh ben, il est entièrement tributaire de du pétrole et du gaz naturel, abondant et bon marché, et que ça, ça va pas durer, et que ça va tout remettre en question. Donc, soit on anticipe une fois de plus, et on opère des renoncements collectifs, soit d'autres types de renoncements, ce ne sont pas les mêmes, ce ne sont pas ceux qu'on aura choisis, ils vont être choisis pour nous, et ça nous sera imposé. Voilà, donc le renoncement, aujourd'hui, n'est pas une privation de liberté. Le renoncement, c'est ce qui va nous permettre d'éviter les privations de liberté terribles demain. Sauf que pour ça, il faut le comprendre, il faut ouvrir une conversation dessus et commencer à discuter effectivement de ce que l'on veut faire croître. Aujourd'hui, dans une société telle que la nôtre, on n'a plus besoin de croître. Quand je dis on n'a plus besoin, je veux dire nous, les uns les autres, dans nos vies, les communautés, les territoires, en réalité, on a besoin de se stabiliser, voire même de redescendre un petit peu et sur la partie quantitative et d'augmenter le qualitatif. Voilà. Donc, il y a des choses qui doivent croître, qui sont plus de nature qualitative, et d'autres qu'il faut arrêter ou qu'il faut sérieusement diminuer. Cette conversation, on doit l'avoir. C'est typiquement ce qu'on peut faire dans le cadre d'une démocratie. C'est l'inverse total d'un autoritarisme. L'autoritarisme, il va s'imposer à nous si on n'a pas réussi à comprendre qu'il fallait qu'on fasse ses choix démocratiquement tant qu'on le pouvait.
Alors, on va parler de résilience. On pourra définir le mot, d'ailleurs.
Là, on repart pour 3 heures. Non, évidemment, on va le faire, mais il faudrait y passer 3 heures. Mais je t'écoute.
Donc, partons de cette hypothèse qui, pour toi, est très probable, qui est que on n'arrêtera pas la machine, et puis qu'à un moment donné, donc, on va se prendre un mur. C'est intéressant aussi, d'ailleurs, parce que on a bien vu, et tu l'as rappelé au début de la guerre en Ukraine, les mots. Fin de l'abondance ont été lâchés par notre président.
Oui, mais un peu à la légère, mais ok.
Un peu à la légère, mais voilà. C'était, il y a eu en tout cas une espèce de pas suivi des faits, ni voilà, on va en parler, mais ça commence. On a commencé en tout cas certainement à se dire ah tiens, il peut y avoir des chocs, il peut y avoir des choses imprévues qui font que, en tout cas, nos approvisionnements énergétiques ne sont plus ce qu'ils sont et on voit les impacts que ça a eu. Donc en Europe, on est en première ligne effectivement puisque il y a des différences selon les régions dans le monde, on va en parler, mais on n'a pas beaucoup d'énergie fossile. Pour l'instant, on mine pas beaucoup, donc on a très peu de ressources. On avait accès au gaz russe, on n'a plus accès. On voit ce que ça fait sur l'économie allemande directement,
ouais.
Qui est en plus industrialisée. On a d'autres régions du monde qui ont l'air de beaucoup mieux anticiper ça. On pense à notamment, d'un côté, il va y avoir les chocs écologiques, plutôt mal anticipé, mais en tout cas, le choc énergétique et la baisse des ressources est plutôt anticipé. On pense notamment aux Chinois qui, depuis des années, font ce qu'on appelle les routes de la soie, les nouvelles routes de la soie, qui sont davantage, en fait, des canaux d'approvisionnement en matières premières vers la Chine que des canaux d'exportation, comme on avait peut-être pu le présenter au début. Et que les Américains, certainement, sécurisent leur approvisionnement de leur côté, mais voilà. Qu'est-ce que tu vois, toi, en Europe, en termes d'anticipation de ce sujet, d'abord peut-être de descente énergétique. Est-ce que c'est quelque chose qui est pris à sérieux, qui est planifié? Les pays européens ont des plans de transition énergétique. Chez nous, c'est plutôt vers le nucléaire. Dans d'autres pays, ça va être, comme au Portugal ou Suisse, c'est vraiment beaucoup d'éolien et de solaire. Ils sont déjà quasiment à 100% parfois, selon les jours. Donc c'est plus ou moins anticipé. Nous, c'est nucléaire, on pourra parler du nucléaire, mais
Qu'est-ce que tu as vu passer dans les plans? Est-ce que c'est au niveau? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que on est complètement dans les choux et on voit pas que on a un risque sérieux d'approvisionnement sur une matière clé, par exemple, comme le pétrole?
Ouais. Non, le truc, c'est qu'il n'y a pas de cohérence globale. C'est ça le problème. C'est-à-dire, de temps en temps, tu vois passer des études ou des publications, et même de temps en temps des discours, voire quelques décisions qui sont tout à fait bien, qui vont dans le bon sens, qui anticipent bien. Mais c'est noyé, là encore, au milieu d'autres préoccupations, d'autres priorités et d'autres thématiques. Et on prend d'autres décisions qui n'ont aucune cohérence et qui sont là. Et donc, oui, tu vois, typiquement tu parles de l'Union européenne et des matières premières. On sait très, très bien aujourd'hui quelle est la liste des matériaux critiques de l'Union européenne. T'as la liste des critical materials, raw materials, etc., qui est évaluée, qui est réévaluée régulièrement. Voilà, je sais pas le chiffre exact. On est, je pense, à entre presque une quarantaine, je pense, d'éléments critiques aujourd'hui. Critique, ça veut dire quoi? Ça veut dire à la fois dont l'industrie et les sociétés européennes, puisqu'on parle d'Europe là, ont besoin, mais aussi dont l'Europe est très tributaire de chaînes d'approvisionnement. Voilà, et on sait très très bien effectivement qu'il y a pas mal de ces produits sur lesquels ça va être compliqué. On essaie de diversifier les sources d'approvisionnement, mais c'est pas évident. Aujourd'hui, par exemple sur le gaz, la situation a fortement changé. Le gaz naturel, présenté à tort d'ailleurs comme un gaz écolo maintenant, c'est pas du tout écolo, c'est juste moins terrible sans doute que le charbon, et encore, faut voir, parce que le GNL, selon certaines études, c'est pas forcément moins terrible. On verra bien. Ça fait pas forcément consensus. Disons qu'il y a des études qui montrent qu'à cause des fuites, au niveau à la fois de l'extraction, puis du transfert de la liquéfaction, puis de la gazéification, etc., de la réinjection dans le réseau de l'autre côté, ce serait terrible. Je n'en sais rien. Tout ce que je peux dire, en tout cas, c'est que nous étions tranquillement installés en Europe avec un tuyau qui arrivait jusqu'à chez nous, hein, Nord Stream 1 et 2. On n'avait qu'à ouvrir le robinet, on avait du gaz chez nous. C'est fini, et c'est irréversiblement fini. Donc maintenant, le gaz, il faut l'acheter. Il faut l'acheter sur un marché international, en compétition avec d'autres, avec la ressource dont le prix va, en tendance longue, certainement augmenter. On a plusieurs sources d'approvisionnement, mais les trois sources majeures aujourd'hui, c'est les États-Unis. Bon, si Trump passe au pouvoir... Est-ce qu'il nous cédera tout son gaz? On verra bien. Avec le Qatar et la Russie. Donc, toujours. On achète encore beaucoup de gaz de GNL à la Russie. Bref. Donc, tout ça pour dire que, ouais, on est aujourd'hui dans une situation où, certes, on a bien conscience, des gens ont bien conscience de tous les approvisionnements et de toutes les dépendances. Maintenant, le souci, vois-tu, c'est que il n'y a pas encore de compréhension du tout, hein. Par les élites, je parle bien des élites politiques et dirigeantes là, ici, le lien entre le mix énergétique et le modèle de société. On imagine qu'on va pouvoir produire une quantité d'énergie, et on va dire équivalente, voire même qui augmenterait, mais en tout cas, on va pouvoir produire autant d'énergie différemment et continuer nos modes de vie tels qu'ils sont. Mais ça, c'est pas vrai. Nos modes de vie ne dépendent pas seulement d'une quantité d'énergie, mais d'une qualité d'énergie. C'est-à-dire, on ne fait pas la même chose avec du charbon et avec du gaz, ou avec du pétrole, ou avec du nucléaire, ou avec du panneau photovoltaïque. Ce n'est pas du tout la même nature d'énergie derrière. Donc, il y a un certain nombre de choses, oui, on peut switcher, mais au niveau d'une société, ce n'est pas vrai. Donc, tant que le but restera de conserver nos modèles de société tout en changeant en profondeur le mix énergétique, on se trompera, ce n'est pas possible. Deuxième chose, ils n'ont pas encore compris le lien entre une descente énergétique éventuelle, parce que je pense qu'aujourd'hui, la grande majorité des élus, ils n'ont pas compris qu'il y aurait une descente énergétique. Ils ont compris qu'il y aurait des problèmes peut-être d'approvisionnement sur certains types de ressources, qu'il y avait peut-être un risque de passage difficile où on manquerait temporairement de ceci ou de cela, mais que grâce au déploiement des renouvelables ou machin chouette, d'ailleurs, qu'ils ne soutiennent pas plus que ça, enfin ça dépend des pays bien évidemment, la France est un des pays qui soutient le moins, c'est absolument honteux, il s'est même fait épingler par la Commission européenne pour ça. En Europe, la France est un des pays qui soutient le moins les énergies renouvelables, mais globalement effectivement, on pense que grâce à tout ça, on va réussir à s'en passer. Mais c'est faux, et on comprend pas le lien avec l'économie, notre capacité à maintenir une croissance économique, parce qu'on pense que par l'efficacité, que par la sobriété. Alors tu dis que la sobriété, on en parle maintenant, mais ce n'est pas vrai. Lorsque nos dirigeants prononcent le mot sobriété, ils parlent pas de ce que c'est la sobriété vraiment. Ils ont une exception très particulière de la sobriété. Pour eux, la sobriété, ça va par l'innovation. Ben non, ça c'est faux. C'est essentiellement la partie efficacité énergétique qui passe par l'innovation. La sobriété, il y a deux grands leviers, en fait. Il y a le levier réduction des gaspillages, et là, il y a quand même du travail, il y a un gisement d'efforts possible. Et puis, il y a produire et consommer moins. Et donc, quand des gens disent sobriété, oui, mais pas par une forme de décroissance, ben non, au bout d'un moment, c'est vraiment, ça devient un paradoxe comme phrase. Voilà. Et alors, dernière chose que je veux dire, c'est sur la perception des risques. Parce que, effectivement, il y a un vrai problème sur, ils n'ont pas compris, je pense, qu'on allait, alors, se prendre le mur. C'est toi qui l'as dit. Je crois que tout à l'heure, j'ai noté ça, hein, sur mon bout de papier, là. T'as dit, on va se prendre le mur. Déjà, il y a un problème. Déjà, effectivement, il faut peut-être pas le dire comme ça. Mais globalement, si tu commences à raconter que ça va pas marcher, à tout de suite, tu es perçu comme un catastrophiste, un alarmiste, un décliniste, un défaitiste, et très rapidement d'ailleurs un ennemi. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas que les tenants du système en place, du système néolibéral dominant, il n'y a pas que les anti-écolos ou les dirigeants actuels qui pensent ça, mais également la grande majorité des scientifiques spécialisés des questions du climat, machin, qui considèrent que non, on a compris les problèmes et on a des solutions, et les gens qui disent que ça ne va pas marcher, ça démoralise tout le monde et c'est un problème. Bon, alors, et donc c'est des ennemis. Et donc les gens comme moi qui attirent l'attention sur les limites intrinsèques et les fautes méthodologiques que l'on fait à la fois sur la caractérisation des enjeux et sur la caractérisation des solutions, les gens comme moi seraient des ennemis. Je trouve ça un peu facile et un peu dommage. Aujourd'hui, la perception des risques, elle est mauvaise à la fois chez les élites, à la fois chez donc même la plupart des scientifiques, parce qu'ils n'ont pas une vision systémique, à la sociétale, des verrouillages qui est au point souvent. Et ils sont naïfs. Ils sont naïfs. Ils s'imaginent qu'en faisant ci ou ça, ça va changer ci ou ça. Parce qu'ils n'ont pas assez de recul là-dessus. Aujourd'hui, ce que je vois, moi, c'est que au niveau des risques, parce que je suis un spécialiste des risques, on n'est pas prêt. C'est que notre capacité aujourd'hui à anticiper les risques, elle n'est pas la bonne. C'est que c'est pas juste qu'elle est insuffisante. C'est que ce n'est pas, on ne s'est pas équipé de dispositifs de la bonne nature. Je t'explique juste ça, après j'arrête. Un exemple. En France, c'est défini dans le Code de la Défense et dans la loi de programmation militaire, on a ce qu'on appelle des SAIV, ce sont les secteurs d'activité d'importance vitale. Donc, ce sont les secteurs particulièrement importants, voilà, on imagine, ça peut être important pour des raisons économiques, pour des raisons, la défense, évidemment, c'est un SAIV. Et l'alimentation, parce que ils sont quand même pas complètement cons, c'est un secteur d'activité d'importance vitale. Oui, c'est important de pouvoir s'alimenter. Pourtant, l'agriculture n'est pas un SAIV. Pourquoi l'agriculture n'est pas un SAIV? Parce qu'il n'y a aucun lien qui est établi entre un certain secteur économique qui produit de la bouffe et puis le besoin de s'alimenter. Aucun lien. Pourquoi? Ben parce qu'on ne produit pas ce qu'on mange sur place. Ah, évidemment, il y a plein d'exceptions, mais ce sont des exceptions très localisées. Au niveau de la manière dont les sociétés sont organisées, ben non, il n'y a pas de lien. On produit à un endroit, mais on envoie ailleurs. Et puis, ce qu'on consomme ici, ça vient d'ailleurs. Il y a des flux permanents. Voilà, il y a une étude de 2017 du cabinet Utopie qui a conclu que dans les 100 plus grandes aires urbaines françaises, ce que consommaient les gens n'était pas produit localement, c'est-à-dire venait d'ailleurs, à 97,9% en moyenne. Et 97%, donc 98% quasiment. Et 97% de ce qui est produit localement par ailleurs. Voilà, ce système, il s'est organisé, il s'est optimisé en termes de sur le plan économique, avec des flux massifs et des flux logistiques permanent. Et donc, il n'y a aucun lien, une fois de plus, qui est établi entre le fait de produire quelque part et de consommer quelque part. On considère que s'il y a un problème à un endroit donné, à un moment donné, sur l'approvisionnement alimentaire, on fera venir la bouffe d'ailleurs. Et c'est comme ça pour tout. C'est-à-dire que l'on considère que les risques sont nécessairement des crises qui vont être localisées dans l'espace et dans le temps. Et donc, dans le pire des cas, tu as un ouragan qui passe ou un truc terrible qui se passe, hein, des endroits, des inondations terribles. Et certaines communes se retrouvent coupées du reste du monde. Il n'y a plus de bouffe, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'électricité, ceci, cela. Bon, ben on déclenche le plan ORSEC, organisation des secours, et on rétablit progressivement tout ça, et on compense les ruptures logistiques par des approvisionnements supplémentaires qui sont temporairement organisés, etc., etc. Tout ça, c'est possible tant que le problème est localisé géographiquement et limité dans le temps. Et on n'a jamais pris jusqu'ici en compte le fait qu'en réalité, ce n'est pas ce type de problème, ce type de risque auquel nous devons nous préparer. Ça, ce sont des risques classiques qui peuvent être très graves, mais classiques. Et aujourd'hui, malheureusement, non. On est face à des risques systémiques. Les risques systémiques, ce sont des processus, pas des événements. Ce sont des processus qui sont déjà enclenchés et qui vont s'accélérer, qui s'accéléreront d'autant plus qu'on n'aura pas réagi suffisamment au niveau sociétal, et qui n'ont pas de fin, et qui touchent les sociétés entières. L'aide ne pourra pas venir temporairement du territoire d'à côté, puisqu'il sera touché de la même manière au même moment, et les pays autour aussi. Nous sommes en réalité sur le point, et quand je dis sur le point, il faut voir ce que disent les experts de la question. Il y a une excellente synthèse qui a été produite par le Shift Project, en s'appuyant notamment sur les données de Rystad, qui est la référence en matière de données sur les hydrocarbures, et globalement qui dit que oui, ben en Europe, on va avoir de sérieux problèmes d'approvisionnement en pétrole avant 2030 et que ça va s'accélérer lourdement durant les années 2030. En fait, on est sur le point de sortir de l'ère du pétrole et du gaz abondant et bon marché. Et ça change absolument tout. Ça change tout parce que nous dépendons pour tout de chaînes logistiques qui elles-mêmes ne fonctionneront que tant qu'il y a une abondance de pétrole et de gaz abondant et bon marché. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur aujourd'hui le fait que tous les camions, tous les poids lourds ont besoin également d'AdBlue qui est fabriqué à partir de gaz naturel, et ça, etc., etc. Mais globalement, voilà, juste, j'ai fini. Donc, nous avons ces risques systémiques auxquels on fait face qui n'ont pas été compris. Donc, aujourd'hui, ben non, je suis désolé. Qu'est-ce que je vois des propositions qui sont faites? Elles sont toujours à côté de la plaque sur le principal. Elles peuvent être pertinentes pour des points spécifiques, pour des choses spécifiques. Mais le principal, les risques principaux, quand je dis principaux, ça veut dire, un, les plus graves, et deux, les plus probables. En fait, c'est même pas qu'ils sont probables, c'est qu'ils sont certains. Après, quelle forme ça va prendre, quand ça va commencer vraiment à se ressentir, ou quand, à quelle vitesse, je ne sais pas. Mais les risques certains qui sont liés à cette sortie de l'ère du pétrole et du gaz abondant et bon marché, eh ben, on n'y est pas préparé. Voilà. Donc non, je suis désolé, de mon point de vue, les politiques existantes et les mesures existantes, sans les foutre toutes à la poubelle, certaines sont très intéressantes, ne répondent pas aux enjeux principaux de notre temps.
Est-ce qu'il y a des régions, deux niveaux, est-ce qu'il y a des régions du monde qui, selon toi, anticipent ça beaucoup mieux? Soit parce qu'elles sont plus à risque, soit parce qu'elles ont une capacité à penser le plus long terme, donc on a un peu parlé de la Chine, etc. Après, il y en a d'autres qui ont moins besoin de le penser parce qu'elles sont moins à risque. On pense aux États-Unis qui ont beaucoup moins de problèmes énergétiques. Après, on pourra parler des problèmes aussi sur l'eau. C'est encore autre chose. La Californie qui a quasiment plus d'eau. Enfin, il y a d'autres choses qu'on voit pas forcément venir. Mais il y a quand même des réponses qui sont apportées, j'ai l'impression, au niveau de plus petites communautés, au niveau de plus petits territoires, au niveau de communes. Voilà. Qu'est-ce que tu observes d'intéressant? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'au contraire, il y a des fausses bonnes idées? Des gens qui se préparent peut-être tout seuls dans leur coin. Voilà. Par rapport à ces, puisqu'on va dans cette idée qu'à un moment donné, il y a une forme d'effondrement de chaînes logistiques, de choses qui ne fonctionneront plus, de manque d'approvisionnement, voilà. Qu'est-ce qui est anticipé? Quelles sont les meilleures idées que tu vois passer ou les fausses bonnes idées?
Ok. Alors, est-ce qu'il y a des pays, pour commencer là-dessus, des régions du monde qui sont mieux préparées que nous? Je ne crois pas. Parce que je crois que cette anticipation-là, elle est quasiment totalement absente en tout cas des gens qui nous dirigent. Par contre, il y a des pays qui sont plus résilients que nous, et des communautés, des cultures qui sont plus résilientes que nous, des gens qui savent encore, par exemple, notamment faire pousser leur propre bouffe avec ce dont ils disposent dans un rayon géographique raisonnable. Aujourd'hui, on a perdu en France cette capacité-là, à quelques très rares exceptions près. Donc oui, il y a des collectivités, des communautés, des peuples qui sont plus résilients que nous face à ce type de choses-là. D'ailleurs, souvent, on pense que les sociétés riches sont plus résilientes que les sociétés pauvres. Mais résiliente vis-à-vis de quoi? Ça veut rien dire. Tout à l'heure, tu me disais, on va parler de la résilience. C'est quoi? Résilience de vis-à-vis de quoi? Donc, la résilience vis-à-vis de tout un tas de types de risques spécifiques, on peut en parler, on en parlerait sans fin. Résilience climatique, résilience économique, résilience sanitaire, résilience de tout un tas de choses. Bon, eh ben, ça dépend. Les sociétés riches sont effectivement plus résilientes que les sociétés pauvres tant que le système perdure vis-à-vis d'un certain nombre de types de résilience. Si le prix du pain fait x2 en France, bah, ça va être dur pour certaines personnes, mais ça change pas la société française. S'il fait x2 dans une société très pauvre, c'est la révolution, c'est la catastrophe, quoi. Donc, on a effectivement, vis-à-vis de ce genre de choses, plus de résilience. Maintenant, moi, ce dont je te parle, les types de risques systémiques face auxquels je te parle, non seulement on n'est pas plus résilient parce qu'on est totalement lié à ces flux d'approvisionnement permanents, hyper connectés et très rapides, et que donc ça va avoir des impacts et des risques en cascade sur notre société beaucoup plus graves que ce qu'on imagine. Et d'autre part, à titre individuel ou on va dire micro-collectif, au niveau local, nous sommes globalement effectivement moins préparés que dans d'autres sociétés plus pauvres où le système D est la démerde et la capacité à faire produire sa bouffe est plus répandue. Mais une fois que tout ça est dit, oui, au niveau local, il y a des gens qui font des choses super. Et ça, quand même, c'est bien, parce que la réalité, c'est que l'on peut se préparer face à ce qui arrive. Et c'est pas juste soi pour soi-même. C'est pas juste pour se dire, moi et ma famille, on va être plus résilients. Non, c'est bien que ça va avoir un, si on est nombreux à le faire, ça va avoir vraiment un impact majeur, y compris, là, je m'adresse aux écolos, y compris pour des raisons écologiques. Si demain le système dominant capote, s'il commence à dysfonctionner et puis à tomber en panne, à ce moment-là, on va dire qu'à certains égards, ça va soulager la nature. Par exemple, je pense que ça soulagerait les grands travaux de déforestation ou la méga surpêche ou des choses comme ça, des industries qui sont massivement destructrices. Donc globalement, ce serait plutôt bon. Par contre, là où les gens vivent, parce que en Amazonie, il y a relativement peu de gens qui vivent. Là où les gens vivent, ça va être l'effet contraire potentiellement. C'est-à-dire que si demain il y a les flux d'approvisionnement dont tu dépends, sachant qu'en France, par exemple, c'est plus de 70% de la bouffe qui est des Français qui vient de la grande distribution, qui a moins de 3 jours de stock dans ses points de vente, c'est le balai des camions, etc. Bref, si ces flux-là deviennent difficiles à maintenir au bout d'un moment, tu vas te retrouver avec je ne sais combien de millions de personnes qui vont s'improviser, chasseurs, cueilleurs, pêcheurs, chasseurs, bûcherons, et qui vont se mettre à couper tout ce qui se brûle et à trucider tout ce qui se mange. Donc, on va finir d'exploser les derniers écosystèmes encore un peu vivaces qu'on a de par chez nous, quoi. Donc, c'est aussi cette dimension-là. La résilience n'est pas que moi pour moi et ma famille, mais c'est bien un enjeu global. Et donc, sans imaginer qu'on pourrait entraîner tout le monde dans une démarche de résilience, parce que là aussi, j'y crois pas, tant que les gens ne pourront pas le faire, ils ne le feront pas, on peut s'appuyer, oui, sur pas mal de choses qui existent, à la fois, alors, la partie résilience alimentaire, qui est une chose que j'enseigne, parce qu'elle est quand même, on peut le comprendre, particulièrement importante, mais ce n'est qu'une des dimensions de la résilience globale, hein. Elle suffit pas. Mais que ce soit sur la partie alimentaire, que ce soit sur la partie énergétique, sur la partie des transports et des infrastructures, c'est un peu plus difficile, mais il y a des choses intéressantes aussi. Sur la partie de comment on prend les décisions collectivement, comment on peut se réorganiser, comment on met en place des économies locales qui pourront résister à un choc qui ferait tomber des pans entiers de l'économie globale. Mais au niveau local, on reste malgré tout, plutôt que de mettre bêtement la clé sous la porte, on reste connecté et actif avec des monnaies locales, etc., des systèmes d'échange locaux. Comment on peut s'organiser? Ce genre de choses-là, ça existe, c'est pas moi qui l'ai inventé. Et il faut le savoir, et il faut le faire, il faut l'expérimenter. Aujourd'hui, on a, et je terminerai là-dessus, c'est ce que je pense qu'il faut faire pour se préparer au grand choc. On a effectivement face à nous des ruptures de continuité majeures qui vont se produire. Quand, comment, à quelle vitesse, une fois de plus, je ne saurais pas dire, mais autant prévoir le cas le pire, qui n'est pas forcément plus improbable que le cas le meilleur. Donc, on a en tout cas des ruptures qui arrivent, et face à ces ruptures, il y aura toute la différence entre une collectivité qui s'est pas organisée et une collectivité qui s'est organisée, ou d'un territoire. Voilà. Je parle bien d'une collectivité, pas d'une communauté. Une collectivité au sens collectivité territoriale, une commune, une intercommunalité, un territoire, un bassin de vie. Les gens qui s'organisent en se repliant sur eux-mêmes, même s'ils ont de très bonnes intentions. Alors d'un côté, il peut y avoir des autonomistes, des survivalistes. De l'autre côté, il peut y avoir des transitionneurs, comme on dit souvent. Tiens, on va avec mes copains là, on est une quinzaine et puis on a racheté un vieux hameau là, on est en train de le retaper, on va le transformer, on va faire de la permaculture, on va être totalement autonome. Bon, super les gars. Sauf que lorsque tu développes comme ça en vase clos, j'ai envie de dire à toute petite échelle, ton autonomie ou ta résilience, tu es plus résilient que le reste de la société tant qu'il n'y en a pas besoin. C'est-à-dire que tant que le reste de la société fonctionne bien. Et le jour où le reste de la société commence vraiment à mal fonctionner, c'est-à-dire ce truc auquel tu te prépares, eh ben tout le monde va converger vers toi, quoi, parce qu'ils savent qu'il y a un îlot de résilience là où tu es. Et en fait, on ne peut pas concevoir la résilience par îlot. Il ne peut pas y avoir juste des îlots au milieu d'un océan de non-résilience. Et c'est la raison pour laquelle ça doit se faire au niveau territorial. Et comme on ne peut pas engager les territoires tout entiers, eh ben il faut qu'on tisse une toile en imaginant que, avec le temps, elle va se resserrer de plus en plus et qu'il y aura de plus en plus de, voilà, que les mailles du territoire, les mailles de ce réseau vont être de plus en plus serrées. Un des réseaux au sein d'acteurs de la transformation vers la résilience, vers la régénération écologique, vers la cohésion sociale aussi, tout ça, ça compte au niveau territorial, puis ensuite entre territoires. Donc voilà, un réseau de territoires qui eux-mêmes, à l'intérieur, sont des réseaux d'acteurs d'un changement vers la résilience et compagnie. Et ça, pour moi, c'est la clé. Et ça, pas la peine d'attendre que tout le monde ait compris. Pas la peine d'attendre que les bonnes décisions soient prises au niveau politique. C'est de l'empouvoirment des gens, parce que ils peuvent le faire. Il suffit de le comprendre et de le vouloir et de s'organiser en tant que tel. Et on peut le faire, et c'est ce que j'enseigne, c'est ce que j'apprends, y compris aux entreprises. Hein. Une entreprise peut devenir un acteur de cette chose-là. Voilà. Et donc, ça, quelque part, ça redonne du souffle, parce qu'on n'est plus dans un blocage, dans une sorte d'impuissance acquise, mais on récupère un sentiment d'efficacité personnelle et une satisfaction, et même, on va dépasser la peur pour, par l'action collective, se mettre à reconstruire des espoirs, et des espoirs de surcroît lucides enfin. Voilà, et donc c'est tout à fait constructif, contrairement à ce que certains pensent, ah, c'est un défaitiste, pas du tout. Toute dernière chose, c'est que quand on fait, c'est vraiment très court, quand on fait les choses, quand on se met en mouvement et quand au niveau territorial, on montre des alternatives qu'il faut faire, il faut aussi se mettre en tête qu'on doit être un acteur d'un changement de nature culturelle. Donc il faut mettre en récit tout ce que l'on fait de façon inspirante. Si on ne fait pas soi-même, on fait appel à quelqu'un qui sait mettre les choses en récit. Mais il faut que ça se raconte, il faut que ça se sache, il faut que ce soit inspirant. Et idéalement aussi, il faut faire ça avec des gens qui différents, c'est-à-dire pas créer un seul récit, et peut-être plusieurs récits en collaboration avec des gens qui sont culturellement différents, pour que il y ait différents récits qui racontent la même chose, mais en faisant appel à des référentiels culturels différents pour que ça parle à plus de monde. Voilà, c'est très important qu'il y ait cette dimension de propagation culturelle, d'alternative pour que les gens puissent visualiser un plan B. Je pourrais encore parler longtemps, mais je sais que c'est déjà trop.
Donc on a bien compris qu'il y a une bonne échelle qui est celle d'un territoire à taille humaine, entre guillemets. Et puis surtout que c'est là qu'il y a peut-être plus de levier plutôt que de rentrer dans la grande machine qui est bloquée peut-être au niveau de l'État et encore plus au niveau de l'Europe. C'est-à-dire plus c'est gros, plus c'est complexe et plus c'est bloqué, on va dire. Même si c'est idéalement à cette échelle-là qu'on aurait le plus de levier, évidemment. Mais...
Oui, je ne pose pas les deux.
Oui, bien sûr. Voilà.
Mais pour la plupart des gens, il ne faut pas attendre que ça vienne du haut avant de se mettre en mouvement. Voilà, c'est tout. Oui, comment?
Comment on convainc? C'est-à-dire que tu vois qu'il y a... On en a pas mal parlé des défauts de stratégie en termes de communication. Il y a quelque chose qui est assez dur, qui est de se mettre en mouvement vers quelque chose qui n'est pas encore là. C'est-à-dire que parler de catastrophe, anticiper une catastrophe, déjà, c'est a priori quelque chose qui n'est pas forcément extrêmement motivant. Les gens, on l'a dit, n'ont pas forcément envie de l'entendre. Ça demande de traverser différentes phases pour l'accepter, pour l'intégrer, etc. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, que ça ne bouge pas. Hein. C'est-à-dire qu'on parle d'urgence, mais en fait, l'urgence n'est pas perçue. Il y a une urgence climatique, c'est très grave, mais en fait, tant que la fête continue, bah elle continue. Et donc on a du mal à sacrifier des choses, on a du mal à changer de trajectoire pour quelque chose qui reste virtuel, qui est présenté par toi comme étant très probable, mais ça reste une probabilité. Donc qu'est-ce qui met en mouvement de ce que tu as pu observer? Qu'est-ce qui fait que les gens vont changer des choses, se mettre construire justement des réseaux de résilience et le faire de manière positive par rapport à quelque chose donc qui n'est pas là et qui a priori quand même quelque chose d'assez sombre aussi.
Ben est-ce que c'est sombre? Regarde par exemple le mouvement des territoires en transition. Il est grand, il est élargi. Après, il est même mondial. Après, c'est surtout beaucoup de petites choses. À quelques exceptions, il y a quelques gros mouvements par-ci par-là, mais la plupart des endroits, ça reste des petits groupes. Donc évidemment, ça, c'est très insuffisant. Et pour autant, tu vois bien que les gens qui sont là-dedans, qui se préparent à une ère post-pétrole, qui se préparent aux résiliences territoriales, en fait, c'est super vivant. C'est justement, une fois de plus, c'est par l'action que tu crées de l'espoir et que tu dépasses la peur. Par contre, la peur, elle est là, effectivement. Comment on convainc? Ben déjà, il faut comprendre que tu convaincs pas tout le monde. Point. Jamais. Tu ne convaincras qu'une minorité. L'idée, c'est de faire en sorte que cette minorité soit la plus grosse possible. Et il s'agit pas de convaincre qu'il y a un problème. Convaincre ne suffit pas. Il s'agit de faire passer concrètement à l'action. Comment tu mobilises? Comment tu fais passer effectivement concrètement à l'action une minorité la plus grosse possible? Et comment tu fais en sorte que cette minorité grossisse ensuite? Voilà. Est-ce que, d'ailleurs, petite parenthèse, est-ce que ça suffira en la faisant grossir suffisamment pour créer une bascule, une espèce de, voilà, de t'atteindre une masse critique et ça change la société? Non, une fois de plus, j'y reviens, j'y crois pas non plus. J'y crois pas. Ça suffit simplement à créer un réseau d'initiatives qui sont dans un réseau d'échanges, de partage d'intelligence collective, de complémentarité aussi, parce qu'on peut pas faire tout partout, et d'entraide, ça permettra simplement que ce réseau soit le plus élargi et le plus, et que les mailles soient les plus serrées possibles. Pour que lorsqu'une bascule ou des bascules se produiront, pas celle qu'on aura réussi à organiser, mais celle que l'on va subir par justement incapacité à changer en profondeur le système suffisamment vite, lorsqu'elles se produiront, on aura ce réseau qui servira de filet de sécurité pour une grande partie de la population, où on pourra dire, attendez, nous on a des alternatives ici, partez pas tout de suite en panique, en chaos, parce que on voit bien que les autorités n'ont rien prévu, qu'il n'y a pas de plan B, mais nous on a l'ébauche d'un plan B, parce qu'on sait faire ci, là-bas ils savent faire ça, regardez, d'ailleurs, tiens, regarde cette vidéo qui a été faite, tu verras, c'est super intéressant, c'est super inspirant. Donc il y a plein de choses à faire, mais de toute façon, pour convaincre, il faut faire. Donc on est déjà une minorité, certes, mais elle grossit, de gens qui, même s'ils n'ont pas forcément tout compris de la systémique des enjeux, sont déjà dans la vérité, dans la réalité de ce que l'on peut faire pour être moins dépendant, moins tributaire de choses qu'on maîtrise pas et sur notre capacité à répondre à nos besoins essentiels demain. Donc ça va être d'abord par l'action et par le fait de faire et de faire de façon inspirante et de mettre en récit et de faire connaître, de diffuser. Donc ça a vraiment un rôle à jouer, toutes ces choses-là. Mais attention, ça suffit pas. Donc globalement, comme je disais aussi, ce n'est pas parce que tu expliques les choses que les gens vont se mettre à bouger. Et ça, c'est l'erreur fondamentale de tous les militantismes sur les questions écologiques depuis des décennies. Donc aujourd'hui, si tu veux que les gens bougent, il faut créer des contextes, des cadres, des opportunités de changement. Donc tu peux t'appuyer sur des tiers-lieux, par exemple, qui sont déjà des lieux qui existent. Le souci de la plupart des tiers-lieux, c'est qu'ils sont aussi très connotés culturellement ou des fois idéologiquement, donc tu retombes dans un entre-soi. Donc il faut créer de nouveaux tiers-lieux ailleurs, dans d'autres quartiers, interquartiers, avec différentes personnes qui organisent ça de façon différente, mais sans que ce soit forcément nécessairement toujours les tiers-lieux tels qu'on les imagine souvent un peu aujourd'hui, une caricature, sans que ce soit péjoratif. Il y a des super tiers-lieux, mais de l'extérieur, c'est facilement caricaturable. Donc on crée des contextes et des cadres où les gens peuvent venir avec des chantiers participatifs, mais des fois chantiers variés, qui sont plus des chevaux de Troie qu'autre chose. Le but n'est pas le chantier. Le chantier, c'est un prétexte pour que les gens se retrouvent, des gens qui n'ont pas l'habitude de bosser ensemble et travaillent, même si c'est que très temporaire, sur des projets en commun qui touchent à des besoins essentiels qui nous concernent tous. Et à travers ces chantiers, tu abordes des conversations, tu lances des sujets, tu fais réfléchir les gens. Ils repartent de là, ils vont changer leur vision du monde et ils vont se mettre à l'action. Si derrière, tu gratifies pour être passé à l'action, si tu as multiplié les incentives, les carottes, les raisons pour lesquelles différentes typologies de gens vont venir sur les mêmes projets, mais pour des raisons différentes, si tu es créatif vis-à-vis de ça, et si derrière tu gratifies, tu récompenses, alors tu crées vraiment du sentiment d'efficacité personnelle. C'est-à-dire que les gens sont contents d'être passés à l'action, et en fait, plus tu es content, plus t'en fais. Et tu émules, et tu crées une dynamique comme ça. Donc ce sont par des expérimentations et par des chantiers qu'on va réussir à créer et à étendre ce réseau. Voilà comment, à mon sens, on fait en sorte. Il y aurait encore beaucoup à dire parce que c'est très multidimensionnel. Ouais. Mais je pense que l'essentiel, il est là.
On arrive à la fin, donc idée clé pour résumer. Ça va être compliqué, on pose pas le bon diagnostic, on n'a pas eu suffisamment une approche systémique et ça va être donc compliqué de résoudre ces problèmes auxquels on est confronté. La trajectoire continue, donc à un moment donné, on va devoir se dire qu'il va falloir faire autrement, on va être contraint de faire autrement, et donc faut anticiper cette éventualité en ayant une gestion différente des risques. À peu près ça.
Il faut effectivement, c'est ça, et il faut le faire, concrètement le montrer, diffuser l'information, parce que certaines personnes vont basculer et rejoindre le mouvement, et parce que la plupart des autres, mais j'espère plein d'autres, même s'ils basculent pas, même s'ils restent tranquillement le cul installé devant Netflix tant qu'ils le peuvent, ils vont avoir entendu ça. Ils vont avoir l'information qui va trotter dans leur tête une petite graine. Et ils vont se dire, ouais, ça c'est pas pour moi, ils vont caricaturer peut-être. Ouais, jusqu'au jour où il y aura précisément à un moment une bascule qui va les atteindre dans leur vie personnelle, et leur mode de vie tel qu'ils le connaissent aujourd'hui sera plus possible. Et là, j'espère que la plupart basculeront vers ces alternatives. Mais ça, il faut le préparer. Donc, il faut être prêt également, au moment où les bascules se produisent, il faut être prêt à communiquer, à faire une espèce de... et à être là, à tendre les bras, à dire, rejoignez-nous, venez, regardez ce qu'on a créé.
Ce qui serait intéressant, on n'a pas le temps de le faire là, mais je ne sais pas si tu peux nous orienter d'ailleurs vers d'autres sources. Moi, je les mettrai sur le site, sur sitemeek.fr, oui. C'est d'aider à visualiser à quoi ça ressemble, cette phase-là. Cette phase, à un moment donné, où le système arrête de fonctionner normalement. Quelles sont les différentes étapes? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Quelles sont les choses qui se passent pour aider justement à se projeter dans une réalité qui aujourd'hui nous paraît un peu presque inconcevable, en fait, pour la plupart des gens. Je sais que tu travailles sur ces sujets-là en tant que scénariste, mais...
Alors attends, sans trop développer, parce qu'effectivement, on arrive au bout, mais malgré tout, il y a quand même peut-être deux choses à dire. C'est pas parce que c'est les choses nécessairement les plus importantes en tant que telles, mais c'est parce que ce sont les deux erreurs commises, et ça, il faut comprendre qu'il faut dépasser ça. Comme je disais tout à l'heure, les récits, il en faut, parce qu'il faut que, pour que les gens changent, il faut qu'ils puissent visualiser. Mais visualiser quoi? Et qui visualise quoi? Donc, il faut se poser ces questions-là. Souvent, on pense qu'il faut leur présenter un idéal. Déjà, faut pas mentir parce que ce sera pas idéal. D'accord? Ce sera moins pire que si on n'avait rien fait, mais ce sera difficile. Mais à certains égards, ce sera bien. On peut montrer que oui, on peut récupérer certaines choses, réapprendre certaines choses, se reconnecter d'une certaine manière et peut-être même retrouver le goût de choses essentielles. Oui, tout à fait. Au-delà des sevrages qui nous seront imposés. Mais cela dit, ça va pas être facile. Il faut pas présenter les choses de manière trop rose. Deuxièmement, on va présenter un idéal désincarné souvent. Pas toujours, hein, mais souvent. Les gens n'ont pas besoin de se projeter dans une autre société. Ils ont besoin de se projeter dans un autre eux-mêmes. Ils ont besoin de se visualiser eux-mêmes demain, héros ou acteurs d'un monde différent, en étant en capacité de faire des choses qu'aujourd'hui ils ne peuvent pas faire. Donc, il faut leur montrer ce qu'ils vont gagner également au passage comme pouvoir d'agir. Erreur majeure, on considère que parce qu'on va présenter ça, ça va mobiliser et motiver les gens. Alors, qui? Souvent, quand on produit un récit, sans même s'en rendre compte, ce récit, il est très teinté culturellement. Et on finit par faire de l'entre-soi. C'est-à-dire que les gens qui ont les idées, les gens qui ont les projets, les gens qui vont raconter les récits derrière vont s'adresser à des gens qui leur ressemblent beaucoup. Or, ça va pas être possible de faire ça, parce que si c'est une forme d'entre-soi qui clive la société. Demain, s'il y a des parties de la société qui se seront préparées mieux que d'autres, tu crois que les autres, celles qui n'ont pas été bien préparées, elles vont rester dans leur coin? Donc, non. Donc il faut multiplier et faire des collaborations interculturelles pour développer des récits qui touchent différentes communautés. Et il faut des relais à l'intérieur de ces communautés, parce qu'en fait, en réalité, si on fait les choses bien, la plupart des sujets qu'on aborde et la plupart des solutions, entre guillemets, qui sont également évoquées, ce sont des choses qui parleront à tout le monde. C'est vraiment du... Sauf que, encore faut-il l'aborder de la bonne manière. Et si tu me permets, j'ai un dernier tout petit truc.
Vas-y.
C'est l'autre erreur qui est faite, selon moi, c'est que souvent on imagine qu'on va présenter une vision et que ça va motiver. Mais non, parce que la plupart des gens, lorsqu'ils voient une vision d'avenir, à moins que cette vision soit rose, idéalisée, auquel cas on ment aux gens ou alors on se ment à soi-même, mais c'est pas vrai, quand on est un minimum honnête, ils vont comparer cette vision-là avec leur quotidien aujourd'hui. Ils vont se dire, ouais, moi, je préfère rester aujourd'hui. Parce qu'ils ont une vision fixiste des choses. Ils s'imaginent, ils se projettent sans vraiment réfléchir dans l'avenir, comme si leur avenir allait ressembler à leur présent. Mais ce n'est pas le cas. Donc, si tu veux mobiliser les gens, motiver un maximum de gens pour un type de changement qui demande des efforts, un type de remise en question et même des renoncements dans l'histoire, si tu veux les motiver à faire ça, il y a deux choses. La première chose, c'est qu'il faut qu'ils le ressentent viscéralement. Ça demande un électrochoc. Ça demande un électrochoc, une peur. Il faut les secouer. Ne pas faire peur fait que les gens ils se remettent pas fondamentalement en question. Ils peuvent faire des choses sympathiques, mais ça n'est pas du tout à l'échelle. Les gens qui considèrent qu'il faut pas faire peur sont des gens qui se trompent. Déjà parce qu'ils ont pas lu la science là-dessus, et je renverrai, peut-être que tu pourrais mettre le lien en dessous, il y a une étude méta-analyse qui fait la synthèse des études sur la question de la peur, qui montre bien que la peur, elle bouge les gens. Donc, non seulement il faut faire peur, mais par contre, effectivement, si tu fais que peur, c'est un problème. Donc, il faut faire peur plus tout un tas d'autres choses, donc que j'ai déjà un petit peu évoqué. Mais il faut empouvoirer, encapaciter les gens en leur donnant des clés, des idées, des cadres, des contextes, des opportunités de passage à l'action, un réseau, des exemples inspirants, etc. Et quand tu fais tout ça, effectivement, donc, tu peux imaginer que les gens vont passer à l'action. Mais pour autant, ça suffit pas. Ça suffit pas, il faut qu'ils puissent visualiser deux futurs. Le futur où ils ont agi et le futur où ils n'ont rien fait. Et c'est la comparaison de ces deux futurs, une trajectoire qui est plutôt la bonne et une trajectoire qui serait une trajectoire de crash, c'est là-dessus que ça va jouer. Donc, il faut que les gens, tu leur donnes la possibilité de comparer deux futurs possibles et surtout pas ne leur donner qu'un seul futur, qu'ils vont par défaut comparer à leur présent. Et ça, c'est une erreur de stratégie. Donc, il faut des récits multiples et différentiels. Voilà, mais cohérents entre eux. Mais cohérents entre eux.
Ok, on pourrait passer une heure de plus, je pense, pour aller dans le détail, mais on va s'arrêter là.
Oui, bon, bien sûr.
Ça fait déjà 1h50, et je vais mettre tous ces liens sur le site et dans la newsletter. Et je te pose pas la question sur les livres, ça sera aussi envoyé dans la newsletter.
D'accord, ça marche.
Et puis, on merci beaucoup pour ton temps, merci pour d'avoir joué le jeu, de m'avoir accordé 2 heures pour développer tout ça. Et puis, évidemment, il y aura beaucoup plus à creuser au travers de tes différentes vidéos, de tes conférences pour ceux qui veulent aller plus loin. Merci beaucoup, Arthur.
Je te remercie, Julien. C'était un vrai plaisir.
Avant de vous quitter, je vous laisse avec une citation d'Aimé Césaire, qui peut aider aussi à remettre en perspective, au moins en partie, tout ce qu'on vient d'écouter. C'est quoi une vie d'homme ? C'est le combat de l'ombre et de la lumière. C'est une lutte entre l'espoir et le désespoir, entre la lucidité et la ferveur. Je suis du côté de l'espérance, mais d'une espérance conquise, lucide, hors de toute naïveté. Voilà, c'est la fin de l'épisode. J'espère que cette conversation vous aura plu. Peut-être même qu'elle vous aura fait un peu changer de regard sur notre époque et ses enjeux. Je suis Julien Devorex. Je me consacre à plein temps à cette enquête sur le monde parce que je suis convaincu qu'on a besoin d'y voir plus clair et qu'on a besoin de croiser les regards et les sujets si on veut être en mesure de bien traverser les secousses présentes et les secousses à venir. Si ce podcast vous plaît et que vous l'écoutez de temps en temps, pensez à me soutenir via un don. Même 1 euro, ça compte. Ça me permet de financer mes outils de production, par exemple. Et sinon, vous pouvez simplement parler de Sismic autour de vous ou via vos réseaux sociaux. Pour aller plus loin, vous pouvez rejoindre la communauté des auditeurs sur le Discord, vous abonner à Sismic sur les réseaux. Vous pouvez vous abonner à la newsletter dans laquelle je partage des informations complémentaires sur les épisodes et mon opinion sur certains sujets. Ou encore, vous procurer mon livre qui s'appelle « Le monde change et on n'y comprend rien ». Aux éditions First. Tous les détails et tous les liens sont sur sismic.fr comme d'habitude. Merci pour votre curiosité, merci pour votre soutien et à bientôt.
Changer le monde. Quelle drôle d'idée. Il est très bien comme ça, le monde pourrait changer.